qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir. Hop, attendez, arrêtez de parler parce que j'ai pas allumé vos micros.
Ah,
c'est bon, vous pouvez dire bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Du coup, nous sommes le mercredi 5 juillet 2017. Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Ce soir, on va parler d'un bon nombre de trucs, mais comme on est déjà un petit peu en vacances, on n'a pas vraiment eu le temps de se lister entre nous. Alors, par exemple, toi, tu vas parler de quoi ?
Eh ben moi par exemple je vais parler de quoi? Je vais parler de l'expulsion de Djellil et d'un rapport de l'OIP.
Ça a l'air super.
Et moi je vais parler de la GPA, puisque la Cour de cassation a fait avancer le sujet en France, et je vais interviewer une personne qui est actuellement en centre de rétention, qui s'appelle Barry et qui s'est fait mettre en centre de rétention il y a un mois, et puis il y a une belle mobilisation autour de sa situation, il va nous en parler.
On aura un petit truc sur la réforme du code du travail et la journée de contestation qui est prévue pour le 12 septembre, d'ores et déjà avant les vacances, vous pouvez toujours le marquer dans votre agenda.
Ah, et bien sûr on aura une interview téléphonique d'une personne qui était à la marche contre la 45 et qui va nous raconter un peu l'arrivée et tout ce qui s'y est passé.
Et alors, grosse découverte des journalistes, Adama Traoré, qui est mort il y a bientôt un an maintenant, c'était en juillet 2016, a sans doute bel et bien été tué par les flics. Ce qui est un peu de notoriété publique, mais là il y a un rapport d'expertise médicale en plus.
Ah.
Après il y aura, ou en tout cas, ou peut-être avant, moi j'ai un petit peu de la petite brève. Et puis dans la rubrique Il faut que ça se sache, à l'intérieur de laquelle on aura cette interview de Barry, on fera aussi un petit tour en Autriche et en Italie. C'est pas joli ce qui se passe du côté des frontières.
En règle générale, c'est vrai que c'est pas joli. Et après, est-ce qu'on aura fini ce qu'il y a d'info ? Il semble.
Ouais, on dirait quoi. Alors figurez-vous que depuis hier, on vit sous la juridiction de l'état d'urgence. Alors pas vraiment depuis hier, mais ça a été renouvelé hier, renouvelé pour la cinquième fois, mais donc adopté pour la sixième fois, c'est la prolongation de l'état d'urgence. Alors, peut-être bien que ça serait la dernière fois cette fois-ci. Ceci dit, tout ce qu'il y a de craignos dans l'état d'urgence va passer dans la loi. Et donc, dernière fois ou pas, de toute façon, les interdictions de manifester, les perquisitions à 2h du matin sans l'accord d'un juge, tous ces machins-là, de toute façon, état d'urgence ou pas état d'urgence, à partir de maintenant, ça va juste être tout le temps. Il y a donc ce fameux projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Gérard Collomb a souligné, aujourd'hui, nous vous proposons de prolonger à nouveau l'état d'urgence pour pouvoir étudier le nouveau texte dans de meilleures conditions. Donc on reste sous état d'urgence de manière à ce que quand le nouveau texte arrive, tout le monde se dise que de toute façon, ça ne change rien. Donc voilà, bonjour, bienvenue, merci. On rappelle que cet état d'urgence, c'est aussi le moment où la France avait dit qu'elle allait suspendre les droits de l'homme. Enfin, vous voyez l'ambiance, quoi. C'est donc ça.
Eh ben, hop, on va n'aura qu'à parler un peu de l'OIP. Donc on est dans les bonnes nouvelles. Eh ben, il s'agit d'un rapport de l'OIP. Donc l'OIP, c'est l'Observatoire International des Prisons, qui a pondu un gros rapport sur les conditions d'incarcération de la prison de Villefranche-sur-Saône. Alors, au début, l'enquête pose le décor. S'il est une maison d'arrêt que les prévenus et condamnés de la région lyonnaise redoutent, c'est bien celle de Villefranche. Le principal reproche que font les détenus, c'est l'application, enfin notamment l'application zélée du règlement intérieur. Et alors je vous laisse imaginer quelques secondes ce qu'est une application stricte d'un règlement intérieur en prison. C'est un peu comme si on vous mettait un flic dans votre voiture et qu'il vous rappelait et sanctionnait à chaque infraction. Et alors ça, je vous préviens, même si vous êtes plutôt du genre à ne jamais dépasser les limitations de vitesse, à ne pas conduire bourré, à s'arrêter au passage piéton, le flic est doté d'un tas d'outils, de règlements. Il peut faire le tour de votre voiture, enfin bref, vous imaginez bien. Et il trouvera toujours une montagne d'infractions à vous coller. Un règlement intérieur de prison, c'est la même chose, sauf que c'est pas tout à fait la même ambiance. Et c'est d'ailleurs fait pour, si un surveillant a un détenu dans le viseur, il dépose donc de tout un tas d'outils pour lui foutre la pression, ainsi que, bien sûr, le soutien de sa hiérarchie. Pour bien comprendre ce truc-là de règlement intérieur et la différence que ça fait par rapport à la loi quand on est dehors, c'est qu'en prison, il y a quasiment tout le temps un flic dans votre voiture, ce qui fait une grosse différence. Alors, en plus de cette application stricte du règlement intérieur, les brimades et violences de certains matons s'ajoutent à ça. Bien évidemment, les syndicats des matons sont montés au créneau avec notamment l'UFAP, UNSA, Justice, qui tentent de décrédibiliser l'OIP, qui leur a reproché par exemple par le passé d'avoir plein d'anciens détenus en son sein. Reproche qu'on a du mal à voir comme un reproche ici, en tout cas. Voilà, en gros, que c'est une enquête à charge, que leur but c'est de décrédibiliser les matons. Voilà. Alors bon, il dit tout ça, bien que quand même l'OIP s'appuie sur des rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui lui, il me semble, dépend directement du gouvernement.
Alors il a une sorte d'indépendance.
C'est ça, mais en tout cas c'est un truc d'État un peu quand même.
Oui.
Donc lui on peut pas l'accuser de partialité, c'est un peu comme si le défenseur des droits avait dit, Jacques Taubon avait dit, c'est pas bien ce qui se passe à Villefranche. Donc le CGLPL, pour faire simple, souligne des relations entre détenus et surveillants empreintes d'une forte tension. Ça veut dire que c'est quand même vraiment la merde dans la prison. Un constat qui serait encore d'actualité avec des fouilles à nu jugées abusives par l'OIP et des violences physiques ou encore des pressions. Donc ces fouilles à nu, c'est ce qui découle notamment de l'application stricte du règlement intérieur dans la prison de Villefranche. L'enquête complète est à lire sur le site internet de l'OIP. Alors vous tapez OIP dans votre moteur de recherche et vous tombez dessus et c'est en une.
Adama Traoré, son nom est sans doute relativement connu maintenant des auditeurs de Radio Canu et en réalité d'un bon nombre de gens dans notre pays. Adama Traoré, c'est ce gars qui, le 19 juillet 2016, a été interpellé par les flics et est décédé suite à son interpellation. Et du coup, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que bon, c'était un peu évident, il a rencontré les flics l'ont arrêté, l'ont maîtrisé, se sont assis sur lui, après il est mort. Mais immédiatement, le parquet, en la personne du procureur de Pontoise, Yves Janier, avait fait un communiqué disant que l'autopsie avait révélé qu'il avait eu une infection grave qui n'avait pas été décelée et que c'était ça la vraie cause de sa mort. Bon, la famille a demandé une contre-expertise qui a été réalisée par un collège d'experts et qui a conclu, que aucun signe ne permet d'évoquer un état infectieux antérieur. Donc le truc dont avait parlé le procureur, c'est ce qui veut dire que c'est une pure invention de la part du procureur. L'ensemble des constatations permet de conclure que la mort de Monsieur Adama Traoré est secondaire, c'est-à-dire due à, est secondaire à un état asphyxique aigu lié à la décompensation et à l'occasion d'un effort et de stress. En gros, il avait trois flics assis sur lui et il a été étouffé par ça. Alors, les trois flics en question disent que dès qu'il... Alors, bien sûr, lui, à un moment, il a dit qu'il avait du mal à respirer. Ça, les trois gendarmes l'ont déclaré. Ce qu'ils ont aussi déclaré, c'est qu'au moment où il a dit ça, ils se sont enlevés et ils l'ont mis en PLS, en position latérale de sécurité, qui est le truc quand les gens sont mal, là, et qu'on a fait du secourisme, on met les gens dans cette position, on s'est un peu sur le côté, tout ça. Bon, les pompiers, par contre, qui sont arrivés sur place, eux, ils l'ont pas tellement vu en PLS, ils l'ont vu face au sol, donc sur le ventre, le nez par terre et les mains menottées dans le dos. C'est pas exactement ça l'idée de la PLS. Alors voilà où on en est. L'affaire a été dépaysée, c'est-à-dire en langage juridique que le tribunal de Pontoise qui devait s'en occuper au départ, finalement ça se passe plus là. Ça se passe où? Eh ben j'en sais rien. Mais c'est la famille qui avait demandé ça parce qu'elle trouvait que le tribunal de Pontoise était particulièrement en soutien aux flics, y compris contre toute vraisemblance. Et donc la famille Traoré va pouvoir, s'ils le veulent, et ça, il semblerait bien que ça soit ça, saisir le conseil de la magistrature pour que ce procureur, Yves Janier, soit sanctionné pour ses déclarations contraires à la vérité. Quant aux gendarmes, eux, et bah, théoriquement, ils devraient, à un moment ou à un autre, être entendus par le tribunal de grande instance de Paris. Ah oui, puisque c'est là que ça a été dépaysé. Voilà.
Et la GPA, la Cour de cassation, reconnaît légalement les parents d'intention depuis aujourd'hui. Puisqu'elle a rendu donc ce mercredi une décision sur la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui, donc ce qu'on appelle GPA, c'est-à-dire une mère porteuse à l'étranger. Elle a donné donc son feu vert à la reconnaissance de deux parents français pour les enfants nés de GPA à l'étranger. Pourquoi on dit ça? C'est parce que la GPA reste interdite en France. En clair. Il s'agissait là, sur ce procès en cours de cassation, de savoir si, dans un couple hétérosexuel, une mère n'ayant pas accouché pouvait être considérée comme un parent légal, ainsi que de définir le statut juridique dans un couple d'hommes du père n'ayant pas donné son sperme. Donc ces deux cas où les parents est appelé le parent d'intention, faute de reconnaissance légale. Et donc, ça a été adopté, accordé, en tout cas aujourd'hui, de manière très précise dans ces deux situations. Et plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme avaient conduit la Cour de cassation à valider en 2015 la transcription du lien de filiation entre enfant et son père biologique. Et du coup, pour dire, ça avait déjà évolué, et là, ça continue à évoluer depuis aujourd'hui. Et donc, désormais, le père d'intention dans les couples homosexuels et la mère d'intention dans les couples hétérosexuels peuvent être reconnus légalement, mais alors voilà, seulement via l'adoption et pas via la transcription de l'état civil d'un pays étranger dans le droit français. Donc, il faut avoir adopté l'enfant au préalable pour pouvoir être reconnu comme parent d'intention. Voilà.
Écoutez ça d'abord. Pendant 3 heures, la ministre du Travail a tenté de convaincre, c'était hier soir, à l'Assemblée nationale, lors de son audition en commission des affaires sociales. Muriel Pénicaud voulait rassurer sur le projet de loi du gouvernement qui entend légiférer par ordonnance. Je suis consciente que les délais sont courts, mais la rapidité n'empêche pas une qualité et une intensité des débats, a-t-elle expliqué dès son entrée au Parlement. Emmanuel Macron entend, en effet, après accord du Parlement en juillet, avoir bouclé le tout, adoption et promulgation des textes en Conseil des ministres le 20 septembre. Un calendrier sur lequel l'a interpellé la ministre, le député LR Gérard Cherpion. Nous sommes dans une précipitation alors que le président a expliqué à Versailles que nous ne devions pas nous précipiter. La concertation sociale n'est pas terminée et nous sommes amenés à donner habilitation à légiférer alors que nous sommes en terrain inconnu. Une inquiétude partagée par les Républicains constructifs, même eux. Les travaux à l'Assemblée nationale commencent mal. Les députés ont disposé de bien peu de temps, explique Francis Vercamer. À gauche aussi, on s'inquiète, comme le rapporte 20 minutes. Boris Vallot, du groupe Nouvelle Gauche, s'élève contre les grandes réformes qui ne peuvent pas faire l'économie d'un débat citoyen sincère, d'un dialogue social approfondi et d'un débat parlementaire respectueux du pluralisme.
Ah,
oui. On n'est pas en train de détricoter, s'est défendu Muriel Pénicaud. On est en train de donner la capacité à plus de dialogue social qui permettra plus de justice sociale, plus de progrès et plus de performance économique. Le débat doit avoir lieu en séance plénière la semaine prochaine. Donc le débat qui autorisera le gouvernement à pondre ses lois sans repasser par l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors voilà, là je vous ai lu l'article du journal L'Opinion. Bon, j'imagine que les auditeurs et les auditrices de Radio Canut sont peu familiers avec ce journal. Mais enfin, j'aurais pu prendre à peu près n'importe quel autre. Hein. J'aurais pu prendre un article de n'importe quel journal de gauche. Les députés de gauche comme ceux de droite, de toute façon, ils ne sont pas contents. Ils sont pas contents de cette histoire, parce que avec cette histoire d'ordonnance, ce qui se passe, c'est qu'ils vont pas pouvoir, ils et elles, ne vont pas pouvoir tenir leur rôle. Faire le théâtre dans l'Assemblée, faire des grandes déclarations, poser des amendements, machin, truc. Et comme en plus, dans ces députés, il y en a plein qui sont des nouvelles venues et des nouveaux venus, et ben du coup, c'est quand même une grosse frustration. Alors pas chez les députés mélenchonistes, parce qu'ils sont venus pour ça. Mais même chez ceux qui sont pas mélenchonistes, il y en a quand même plein qui auraient bien voulu, quoi, un peu de panache à l'Assemblée nationale. En défendant les droits des salariés, en particulier pour par exemple ceux de la France insoumise. Mais nous, par contre, il faut bien dire ce qui est, on n'en a rien à foutre. Que la loi soit adoptée par ordonnance ou qu'elle soit adoptée autrement, que ça passe à l'Assemblée nationale, que ça passe au Sénat, que machin, que truc, ça nous concerne pas. De toute façon, si la loi avait suivi le chemin normal, classique, donc blabla, elle sort des ministres, elle arrive à l'Assemblée nationale fait 3 amendements, il l'envoie au Sénat, le Sénat dit ah ouais, elle est pas mal, mais quand même nana. Alors après, ils refont des amendements, elle revient à l'Assemblée nationale. Bon, ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, un peu plus de temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'Assemblée nationale, donc les macronistes, on a bien compris, ont la majorité absolue, et du coup, en fait, ça aurait fait juste aucune différence. Il n'y aurait pas une seule différence, puisqu'il n'y en a pas un qui aurait voté contre, un ou une, et donc la loi serait passée exactement pareil que par ordonnance. Si jamais les macronistes n'avaient pas vraiment eu la majorité, qu'est-ce qui se serait passé? Eh ben, il y aurait eu des petits trucs de cuisine électorale, et vas-y, je te donne ci, et vas-y, je te prends ça, et s'il te plaît, quand même, vote pour moi, mais d'accord, en échange, je te promets tel truc, nanana. Au final, ça aurait été la même. Alors nous, ce qu'on sait, c'est que cette loi, de toute façon, elle est mauvaise pour les employés, elle est bonne pour les patrons, elle est bonne pour les riches, elle est mauvaise pour les pauvres. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de pauvres. Je veux dire, quelqu'un, quand bien même qui serait pauvre avant d'arriver à l'Assemblée, c'est 7000 balles par mois. Alors, autant dire que les pauvres à l'Assemblée, c'est pas ceux qu'on risque de rencontrer dans la rue. Nous, ce qu'on sait, c'est que le 12 septembre, il y a une sacrée bataille qui va commencer et que pour la gagner, on va pas trop compter sur les députés, même sur les députés mélenchonistes, parce que ces gens-là, il y a une chose qui est claire, c'est qu'ils sont pas dans le même camp que nous.
va s'écouter une toute petite musique, le temps de préparer l'insert téléphonique. Alors, amis de la 45, si vous nous écoutez, votre téléphone va sonner pour les auditeurs de Radio Canu et auditrices. Une petite pause musicale s'offre à vous. 1, 2, 3, 4. Nous sommes en direct. Est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Est-ce que tu nous entends?
Oula, très loin.
Très loin? Ça va un peu mieux là?
Ouais, j'ai vraiment très très loin, mais on va essayer de faire avec. Ah, là j'entends Arsène.
Est-ce que là ça va mieux?
Ouais, ça va mieux.
Super. Eh bien, alors, salut. Toi, tu étais à la marche contre la construction de l'A45.
Tout à fait.
Et alors, est-ce que déjà, même si j'imagine, il y a plein de gens qui en ont entendu parler, mais pour celles et ceux qui n'en ont pas entendu parler, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur pourquoi cette marche et le projet de cette autoroute qui a pour but de relier Lyon et Saint-Étienne, qui sont déjà reliés hein, par une route nationale?
Ok, alors du coup la 45, c'est une autoroute qui doit relier Saint-Étienne et Lyon, en fait pas exactement, même plus précisément La Fouillouse et Brignais, puisqu'elle ne devrait pas arriver jusqu'à Lyon, et qui c'est une espèce de grand bandeau de bitume là qui serait complètement parallèle à la 47. Qui existe déjà, qui est gratuite, et cette nouvelle A45, elle ne le serait pas, puisqu'elle devrait coûter à peu près 5 euros 50 le péage, un truc comme ça. Et voilà, et récemment, il y a eu le Conseil d'État qui a donné son feu vert pour son aval, hein, pour la construction de cette autoroute. Et ça fait suite au déblocage des fonds qui manquaient encore depuis... parce qu'en fait, c'est un projet qui date, hein, qui est pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a un peu plus de 25 ans. Mais il manquait les financements. Et du coup, Saint-Étienne Métropole et la région Aura, avec Laurent Wauquiez, a débloqué les fonds nécessaires à la construction de cette autoroute, a donné la concession à Vinci, et du coup, le Conseil d'État a donné son aval. Donc en gros, c'est le début peut-être de l'histoire, avec le début éventuellement de travaux éventuels qui devraient peut-être... commencer d'ici là. Donc du coup, depuis à peu près une petite année, sur Saint-Étienne, il y a une assemblée de lutte contre la 45 qui s'est créée. Et du coup, il y a cette idée-là qui a émergé de faire une marche contre cette autoroute, une marche qui suivrait plus ou moins le tracé de cette autoroute. Et du coup, une marche qui est partie de Saint-Étienne devant le bâtiment de Saint-Étienne Métropole pour arriver jusqu'à Lyon devant l'hôtel de région à Confluence. Et du coup, tous les soirs, il y avait des petites étapes. Et du coup, voilà, on a pris contact avec les opposants déjà existants, hein, en gros. C'est-à-dire, il y a deux coordinations. Il y a la... une côté Loire, une côté Rhône. Alors il y a la sauvegarde des coteaux du Lyonnais et la sauvegarde des coteaux du Jarret. Et récemment, il y a un collectif paysan, je dirais intersyndical, on va dire, qui regroupe des paysans de, à la fois de la Conf, mais aussi des paysans de la FDSEA qui s'est monté. Et voilà, du coup, tous les soirs, on a été accueillis dans divers lieux. Je pense qu'il y a déjà eu des camarades à moi qui sont passés sur cette antenne pour préciser un peu les étapes, etc. Donc je sais pas si je vais les redétailler. Mais en gros, il y avait une 10-15 de kilomètres par jour que les marcheurs ont fait. Et puis les soirs, on était accueillis soit dans des salles communales, soit dans des salles d'associations, soit dans un terrain comme par exemple lundi soir à Taluyer, sur un terrain d'un paysan, d'un opposant du collectif paysan, qui nous a accueillis sur son terrain. Donc voilà, donc l'idée en fait c'est, si on peut reprendre la genèse, il y a à peu près en 2013-2014, je ne sais plus exactement l'année, dans le Val de Souze, il y avait eu cette idée-là de marche contre le Lyon-Turin qui traversait tous les petits bleds de la vallée, qui faisait le tour un peu des présidios qui sont dans la vallée. Et l'année suivante, en France, cette fois, du côté français, qui avait une marche notable qui avait été faite de Lyon jusqu'au Val de Souze, avec un peu dans le même esprit. Et du coup, voilà, nous on a trouvé ça pertinent de parcourir ces kilomètres, de prendre possession du territoire, de partir en reconnaissance un peu, on va dire, de rencontrer les gens sur place qui déjà s'opposent à cette autoroute, parce que nous on est dans des problématiques plutôt urbaines. Nous on a des raisons de s'opposer en tant qu'avec nos yeux de Stéphanois, je dirais, et puis tout ce que cette autoroute va avoir pour conséquence sur notre ville, quoi. En gros, ça fait partie en gros du grand processus de gentrification de la ville. Et à la fois aussi du problème qu'il peut y avoir quand il y a une grande métropole qui concentre plein d'activités, des emplois, etc. Et une métropole dominée un peu, hein, qu'on va dire, la grande métropole c'est la vôtre, hein, vous la connaissez, et la métropole dominée c'est nous, Saint-Étienne. Et peut-être les conséquences ça pourrait avoir sur la hausse des loyers. Saint-Étienne c'est une ville qui est très très peu chère, c'est l'une des villes les moins chères de France en termes de prix de l'immobilier. Et voilà, toutes les conséquences ça pourrait avoir en termes de nouveaux habitants qui pourraient venir, parce que c'est le but hein, clairement affiché, qui pourraient venir s'installer à Saint-Étienne, et puis les conséquences ça pourrait avoir sur le prix de l'immobilier. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles nous on s'est opposé à ça. Et du coup, c'est vrai que nous on avait assez peu de contacts sur, parce que quand les travaux vont commencer, ils vont commencer surtout sur ces coteaux, quoi, sur ce qu'il y a entre Lyon et Saint-Étienne. Et on a trouvé ça pertinent de partir à la rencontre des opposants à un moment donné où peut-être va falloir s'opposer un peu plus radicalement, on va dire, entre guillemets, à cette autoroute. C'est pas arrivé ex nihilo comme ça, débarquer nous les gens de la ville à la campagne. Donc en gros l'idée de la marche c'était ça, je sais pas si j'ai été clair et concis, mais voilà, en gros c'était ça.
D'accord. Et est-ce que par exemple ça a réussi, ou peut-être que ça existait déjà avant, moi je connaissais pas trop ça, mais j'imagine que pour vous l'accueil a dû être plutôt favorable, vu comme vous passiez dans des villages qui, dans des moyennes villes qui vont voir l'autoroute à leurs pieds et donc refusent cette autoroute parce que personne ne veut nous donner une autoroute en bas de chez soi. Et est-ce que ça a réussi un peu à lier un peu tous ces villages et tous ces endroits qui refusent l'autoroute, ou est-ce qu'il y avait déjà un truc qui existait avant?
Il y avait des... Je sais pas si j'ai bien compris la question, c'est vrai que je t'entends pas très bien, mais il y avait déjà une coordination des opposants qui s'est montée, qui se réunit, je sais plus la fréquence exactement, mais qui regroupe justement les différents collectifs, le collectif paysan, la sauvegarde des coteaux du Lyonnais, la sauvegarde des coteaux du Jarret. Et nous, en amont, on avait quand même pris la peine de se rendre à quelques-uns, les 3-4 mois précédant la marche, à cette coordination pour commencer à créer des contacts et pas arriver comme ça comme un cheveu sur la soupe tous les soirs, on va dire. Et au niveau des liens qui sont créés sur la marche, très honnêtement, enfin, je pense qu'on est plutôt content. Et on pense que c'est plutôt quand même une réussite, parce que tous les soirs, il y a quand même eu des gens. Alors tous les soirs, on avait prévu des projections, des débats. Il y a des camarades de Roibon, du Val-de-Souze, de Saint-Julien-Molamolette qui sont passés, etc., etc. Donc du coup, ça a quand même ramené tous les soirs des gens du coin. Il y a des échanges qui sont, voilà, des échanges qui sont créés. Et l'accueil, il a été, je dirais, plus qu'enthousiaste en fait. J'ai quand même cette sensation-là, et voire même, donc parce que peut-être qu'on en reparlera, mais du coup ce week-end-là, il y a eu un grand week-end organisé par la coordination des opposants à Saint-Maurice-sur-Dargoire, avec une soirée un peu festive, avec des concerts, etc. Et le lendemain, plein d'ateliers, plein de stands, un marché paysan avec toutes les fermes qui devraient être impactées, qui étaient là. Voilà, et nous, ce qu'on a ressenti, c'est qu'on a, enfin, on a été partie prenante un peu de ce rassemblement. On n'était pas mis de côté. Puis on nous a invités plusieurs fois à prendre la parole. Voilà, j'ai l'impression qu'on a l'accueil, en tout cas, il a été plutôt favorable. Et voilà.
Et j'avais une autre petite question. C'était, est-ce que vous avez, parce que dans ce genre de lutte, on peut voir souvent l'espèce de déviance du truc de genre une autoroute, oui, mais pas chez nous.
Ouais.
Est-ce que vous avez réussi à sortir de ce truc-là, ou est-ce que c'est un truc qui s'est pas du tout posé de toute façon, comme il y a déjà cette une autre autoroute et une autre infrastructure qui existe déjà?
Bah, c'est vrai que c'est un peu l'écueil de ce genre de mouvement, hein, qui commence, on appelle ça NIMBY, si on emploie des termes techniques, not in my backyard, pas dans mon jardin, etc. Donc c'est vrai que ce genre de lutte, je pense que c'est un peu inévitable, où forcément des gens vont commencer à s'opposer, parce qu'ils n'ont pas envie de voir une autoroute qui traverse, qui passe à 10 mètres de chez eux, ou qui va même exproprier leur maison, ou etc. etc. Nous, ce qu'on a essayé d'amener, enfin comme discours, c'est justement, on n'était pas là pour chercher, par exemple, des alternatives à cette autoroute, ou la faire passer ailleurs, ou améliorer l'autoroute restante. Même si il y en a qui le font. Enfin, c'est un peu le rôle de la coordination des opposants. Par exemple, eux, ils sont là-dedans à dire qu'on peut améliorer, aménager beaucoup mieux, ou refaire un peu la 47. Et que il y a pas besoin d'une A45. Bon, je pense que c'est vrai, mais là faut voir qu'on est encore au tout début. Il y a encore tout début de cette lutte. Il y a pas eu encore de travaux qui ont commencé. Il n'y a pas encore eu vraiment d'opposition autre que sur le terrain politique ou juridique qui s'est fait. Et généralement, ce qu'on appelle un peu des montées en généralité, c'est-à-dire qu'on commence par critiquer une autoroute, une ligne de train, un aéroport, etc. Et après, généralement, souvent, ce qu'on peut observer, hein, dans cet autre type de lutte, c'est à partir de cette critique-là, derrière, en fait, on va se mettre à remettre en cause plein de choses, où les gens vont se mettre à remettre en cause plein de choses et aller plus loin que le simple discours de je veux pas d'autoroute parce que je vais me faire exproprier, parce que cette autoroute, elle va me prendre ma maison ou passer à 10 mètres de chez moi, quoi, dans mon jardin, quoi. Donc pour l'instant, voilà, c'est un peu dur à quantifier ce genre de choses. C'est vrai que les gens se mobilisent avant tout pour ça, mais voilà, je pense que si un jour il y a quelque chose de plus concret qui avance, c'est un discours que des gens amènent, que des gens peuvent amener, et qu'on peut voir déjà, par exemple, dans des gens du collectif paysan, des gens qui portent aussi la parole du fait quand on est entre deux villes comme ça, là, il y a cette espèce d'effet tunnel qui se crée, et qu'entre les deux, en fait, on est un peu écrasé entre ces deux villes, mais que les gens, c'est quelque chose qu'on a pu entendre pas mal ce week-end, que les paysans qui travaillent dans le coin, ils sont là aussi pour nourrir des populations locales qui sont aussi dans ces grandes métropoles, et qui existent et qui sont là. Et du coup, ça va, je dirais, au-delà du fait que ça va déjà au-delà du fait qu'ils vont se faire simplement exproprier leur ferme, quoi. C'est aussi une volonté de voilà, de se reposer la question du qu'est-ce qu'on produit, comment et à qui ça sert. Et voilà, c'est sorti circuit court un peu là, qui est un peu un terme à la mode, mais voilà, je pense que c'est peut-être un début de remise en question du simple truc NIMBY, là, comme je disais tout à l'heure.
C'est ça, du coup, par cette autoroute, et oui, ça touche un truc plus large de comment est-ce qu'on vit et où est-ce qu'on veut aller, quoi. Est-ce que tu peux nous relater un peu l'arrivée de la marche? Du coup, vous êtes arrivé quand? Après combien de jours de marche? Et où est-ce que vous êtes arrivé, en gros?
Alors, la marche, elle est partie, comme j'ai dit, donc mardi dernier, et elle est arrivée hier soir, donc ça fait une semaine de marche. Elle est arrivée hier soir devant l'hôtel de région, donc à Confluence, là, dans le nouveau super quartier de Confluence, et devant chez Wauquiez, hein, pour être plus précis. Et du coup, voilà, on a fait une petite... c'est vrai qu'on... Nous, en tant que Stéphano, on était un peu à tâtons là, sur cette dernière étape, là, cette arrivée. Du coup, il y a quelques copains de Lyon et copains et copines de Lyon qui ont un peu pris le relais pour essayer d'organiser un peu cette arrivée. Voilà, on a fait une petite arrivée un peu festive, déguisée, comme ça, là, avec de la musique devant l'hôtel de région. Et le point positif du truc, moi, ce qui nous a un peu touché quand même, c'est que très peu de gens étaient au courant de cette arrivée. Le week-end, on en a quand même profité pour marteler un peu ça, dire que ce serait bien qu'il y ait du monde, et pas que les marcheurs qui soient devant l'hôtel de région, etc. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de gens, je dirais qu'on était bon, une centaine, quoi, un truc comme ça, hein, ce qui est pour un mardi soir à 18h, ce qui est quand même pas si mal. Et pas mal de gens, bah, des coteaux du Lyonnais, de même de la Talaudière, qui est une ville dans la banlieue de Saint-Etienne, hein, une ville qui va d'ailleurs couper en deux littéralement par la 45. Donc voilà, des gens de la Talaudière qui étaient là. Enfin, pas mal de gens avec des t-shirts jaunes, hein, parce que peut-être que vous reconnaîtrez ça si vous intéressez à cette lutte. Ils ont sorti des t-shirts jaunes avec non à l'autoroute, etc. Donc pas mal de gens qui nous ont rejoints finalement, du collectif paysan et aussi de la sauvegarde des coteaux du Lyonnais et du Jarret qui étaient là et qui nous ont rejoints mardi à 18h devant l'hôtel de région à Lyon. Et du coup ça faisait quand même plaisir à voir.
Ok, et ben super. Est-ce que donc ce n'est que le début, comme on dit, c'est ça? Y a d'autres rendez-vous à venir où là vous faites un petit peu une pause et vous reprenez, je sais pas, les rendez-vous par exemple après quelques vacances bien méritées?
Ouais, alors oui, des rendez-vous dans le futur, plutôt des idées qui émergent un peu ici et là quand on en discute entre nous. Et en tout cas entre toute la petite bande là qu'on était de marcheurs, parce qu'il y a au début on a commencé, on était exclusivement des Stéphanois, et puis sur la fin, plus on se rapprochait de Lyon, plus il y avait aussi des copains et copines de Lyon qui nous ont rejoints. Et du coup, voilà, il y a des envies. Pour l'instant, je vais peut-être pas détailler parce que voilà, ça reste peut-être que véléitaire, mais peut-être qu'on verra sur la suite. En tout cas, nous, entre nous, il y a plein d'idées qui commencent à germer. Et voilà, profiter des contacts et de l'accueil quand même très chaleureux qu'on a eu parfois sur les différents territoires et les différents lieux où on a été accueillis pour essayer de lancer une petite dynamique. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas plus détaillé parce que voilà, ça reste de l'ordre de l'idée, mais on tiendra au courant les auditeurs de Radio Canu, les lecteurs de Rebellion, du numéro 0 et d'autres médias divers et variés.
Et ben
voilà, à la rentrée.
Merci beaucoup à toi. Du coup, pour vous tenir au courant, c'est ça, regardez rebellion.info, numéro 0.info, si je ne me trompe pas.
Point l'autre.net.
Point l'autre.net.
Ouais.
Merci de me corriger.
Tout à fait.
Et bien, affaire à suivre, et merci à vous.
Eh bien, merci à vous.
Allez,
voilà,
salut.
À bientôt, à très vite.
Écoutez, à tout moment, il peut venir te prendre pour les moments. À leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Le sans-papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a décidé de lire par terre.
Contre la machine à expulser.
Que ça se sache.
Alors tu vas nous parler de quoi
Eh bien, hop, je vais vous parler de Djelil. Alors Djelil, vous en avez entendu parler. Il y a eu plusieurs luttes autour de lui. Donc il a été expulsé ce matin vers l'Italie. Donc c'est ce que je disais, autour de lui, une mobilisation s'était montée avec plusieurs manifs et communiqués de presse. Djelil a 15 ans et en arrivant en Italie, il s'est dit que ce serait plus simple pour lui de dire qu'il était majeur, que les autorités feraient moins chier un jeune adulte qu'un ado seul. Bien mal, lui a pris, puisqu'une fois arrivé en France, il a fait une demande comme mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et là, il a bipé dans les fichiers de la préfecture qui croisent tous les fichiers des étrangers, qui a vu qu'il avait déjà fait une demande en Italie et qui plus est en tant que majeur. Eh ben, ni une ni deux, il est immédiatement sorti du dispositif de l'ASE pour l'aide sociale à l'enfance. Voilà, une histoire somme toute tristement assez ordinaire, mais qui démontre bien comment leur système de fichiers et de fichage des migrants écrase le destin de seuls, de celles et ceux qui veulent passer les frontières.
C'est ça, ce sage.
Alors, moi, je vais parler de trucs plus sur de la grande échelle. C'est-à-dire pas des histoires individuelles, mais vraiment des histoires de politique politicienne et de politique migratoire. L'Autriche compte très bientôt rétablir les contrôles et déployer l'armée à sa frontière avec l'Italie. On parle bien de faire surveiller la frontière par l'armée si l'afflux des migrants ne ralentit pas. Et donc c'est le ministre autrichien de la Défense qui a dit ça lundi à un quotidien viennois. Je m'attends à ce que les contrôles aux frontières et une mission d'assistance de l'armée soient très bientôt requis. Ces mesures s'avéreront indispensables si l'afflux de migrants venus d'Italie ne ralentit pas. Selon le quotidien, 750 soldats sont disponibles. 4 véhicules blindés sont prêts, tout ça pour être envoyé dans la région frontalière dès le week-end qui vient. L'Autriche avait déjà rétabli les contrôles à sa frontière, les contrôles à sa frontière avec la Hongrie en 2015. Et là, elle se dit prête à construire des barrières sur sa frontière avec l'Italie. C'est là qu'on en est. Alors on se rappelle quand même que l'Autriche, c'est ce pays dont tout le monde se félicitait il y a quelques mois de ça, qu'il ait finalement rejeté l'extrême droite en votant pour un écologiste modéré plutôt que pour le candidat l'équivalent local du Front National. Ce nouveau gouvernement non fasciste nous pond des mesures dans ce genre-là. Alors, il faut quand même bien dire que l'Italie, il se passe aussi des trucs de ce côté-là, puisque quand même, en Italie, depuis le début de l'année, on a plus de 83 000 arrivées de migrants, c'est-à-dire qu'il y en a plus de... que c'est 20% en plus que sur la même période en 2016. La plupart arrivent de Libye. Alors, l'Italie, vous voyez, en fait, il faut se représenter vite fait une carte de la Méditerranée, hein, mais c'est... C'est parce que l'Italie, c'est vraiment le bout d'Europe qui pointe vers le sud et vers les côtes africaines, et en particulier vers la Libye. Bon, l'Italie, du coup, est pas bien contente. Dimanche dernier, réunion à Paris des ministres de l'Intérieur italiens, français et allemands, qui ont été rejoints par Mario Minetti, alors je sais pas qui c'est, Thomas de Mézières, alors lui, c'est le ministre, si je ne m'abuse, des affaires étrangères, et le commissaire européen aux migrations, Dimitris Avramopoulos, un grec donc. Eux, ils sont venus. Alors voilà, ils ont fait une réunion, puis ils étaient bien contents. Les discussions se sont absolument bien passées, et donc ils sont arrivés à un accord sur plusieurs points qui seront publiés par communiqué et qui ont pour but d'être endossés, c'est-à-dire d'être ratifiés, enfin que tout le monde se mette d'accord avec les 28 États de l'Union européenne. Et ça se passerait à Tallinn, c'est-à-dire la capitale de l'Estonie, en fin de semaine. Alors pourquoi la capitale de l'Estonie ? Parce que les ministres de l'Intérieur doivent s'y retrouver demain, et parce que c'est l'Estonie qui assure en ce moment la présidente tournante de l'Union européenne. Donc voilà, on devrait arriver à un accord sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces bateaux qui arrivent en Italie. Il faut quand même bien dire que Rome a menacé, il y a la semaine dernière, mercredi dernier, a menacé de bloquer l'entrée de ses ports aux bateaux étrangers transportant des migrants secourus en Méditerranée. Ce qui veut dire que les bateaux, s'ils ramassent des gens qui sont en train de se noyer, pourraient plus rentrer en Italie. En sachant que, par ailleurs, toutes les lois internationales trouvent que s'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer pendant que vous êtes sur un bateau, c'est même pas votre droit, hein, c'est votre devoir le plus strict, c'est d'aller le repêcher quand même. Ce qui semble, comme qui dirait, évident. Mais donc, l'Italie menace de pas laisser rentrer les bateaux étrangers qui feraient ça. Les bateaux qui sauvent des migrants battent. L'Italie a quand même trouve quand même que ça serait de toute façon compliqué, puisque ces bateaux peuvent venir de différents pays européens ou même pas européens, et c'est d'un côté des bateaux qui appartiennent à des ONG, mais d'un autre côté aussi des bateaux de l'opération navale européenne anti-passeur Sophia, donc un truc des flics, et les bateaux de Frontex. Eux aussi, ça peut leur arriver quand ils croisent des migrants en train de se noyer. Il leur appuie pas toujours sur la tête, des fois il les repêche. Et il y a même des gardes-côtes italiens à qui ça peut arriver. Donc un peu compliqué de pas laisser rentrer ces bateaux. Si les ports vers lesquels les réfugiés sont acheminés sont des ports italiens. Ah pardon. Et alors ça c'est le ministre italien qui dit que en fait tous les migrants qui sont repêchés en Méditerranée peuvent pas tous être accueillis en Italie parce que ils sont très nombreux et du coup ils sont effectivement globalement ils arrivent en Italie quoi parce que c'est dans ce coin-là qu'on les pêche. Alors, pardon, c'est que je me suis fait plein de flèches sur mon papier. Alors, et donc Rome souhaiterait qu'un centre maritime régional supervise toutes les opérations de secours en Méditerranée, donc que l'Europe crée un truc qui gère tout ça, de la Grèce à la Libye en passant par l'Espagne, et répartisse les migrants dans les pays européens. Donc l'idée de l'Italie, du gouvernement italien, ça serait qu'il y ait une sorte de machin européen qui s'occupe, quand les migrants arrivent, de directement les envoyer dans différents pays de l'Europe pour que ce ne soit pas que l'Italie qui les supporte, ce qui en réalité pourrait paraître complètement raisonnable. Le ministre italien a indiqué que Rome aimerait bien déplacer en Libye le processus de demande d'asile. Ah oui, c'est ça. C'est que de tout ça, il sort aussi encore une fois, l'idée d'externaliser les frontières. C'est-à-dire que les demandeurs d'asile devraient demander l'asile en Libye avant d'arriver en Europe. Et là, dit le ministre, on pourrait acheminer en toute sécurité en Europe les migrants qui seraient retenus. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils risquent de se noyer en traversant la Méditerranée, ils demanderaient avant de venir. Et puis, moyennant quoi, on les amènerait avec des bateaux solides, quoi. Pas des bateaux où on met 200 personnes sur une barque. Puisque ça serait l'Europe qui financerait. Oui, eh ben oui, mon cher monsieur, comment il s'appelait déjà ? Minniti. Sauf qu'il se trouve qu'il y a un paquet de gens qui veulent venir et qui ne sont pas forcément des gens qui auraient l'asile politique, puisqu'on sait qu'il y a très très peu de migrants qui ont l'asile politique. Emmanuel Macron, lui, a observé, alors suite à encore une sorte de machin, Macron a rencontré Merkel pour parler de tout ça, puis ils ont fait des déclarations à la presse, et c'est là que Macron a dit que plus de 80% du phénomène migratoire auquel fait face l'Italie sont des migrations économiques qui ne relèvent pas de l'asile politique. Mais en fait, ces gens-là vivent dans quel siècle ? C'est-à-dire que est-ce qu'ils se rendent compte de l'état dans lequel est une énorme partie de la planète, que cet état est une sorte de magma constitué par des trucs de pauvreté stricte, et à des moments des trucs de pas avoir assez à manger, et ça du coup ça c'est économique, ouais, mais alors est-ce que réellement c'est pas politique que par ailleurs il y a un peu des guerres par-ci, un peu des machins par-là, un peu l'eau qui monte et qui fait qu'il y a aussi des coins qui sont de moins en moins habitables, qu'il y a effectivement des tonnes de phénomènes climatiques comme le phénomène El Niño. La semaine dernière j'avais hésité à parler de cette info, mais il y a un coin quelque part en Amérique latine où il s'est mis à y avoir une invasion de cafards, où il y avait 2 cm de cafards par terre partout dans toute la ville. Et ben effectivement il y a des gens qui se barrent d'endroits pourris et qui viennent vers des endroits qui ont l'air plus vivables comme l'Europe. Dans tous les cas, que ça soit entre autres économique, c'est sûr que dans tous les cas, c'est politique.
Il faut que ça se sache.
Tu m'entends ? Mon micro, il est
ouvert.
Parce
que tu as changé de micro entre temps aussi. Avant, tu avais le.
On l'a changé, je l'ai pas changé. Alors, bonsoir, Barry. On t'a au téléphone, c'est très sympa de nous répondre. Donc je vais résumer un tout petit peu, c'est que du coup le 31 mai dernier, tu as été arrêté, placé en garde à vue, puis envoyé au centre de rétention administratif de Lyon-Saint-Exupéry, d'où tu nous parles ce soir.
Oui.
C'est bien ça. Du coup, comment ça se passe le quotidien là au centre de rétention à Lyon ? Parce qu'on a pas souvent l'occasion d'avoir des nouvelles de l'intérieur du centre. Donc, si tu veux nous raconter un peu.
Et merci de m'avoir appelé et de nous donner un temps de m'exprimer sur votre antenne. Et ouais. J'ai été arrêté le 31 à Grenoble. J'étais en visite dans un squat que les camarades pacifistes ont ouvert pour des demandeurs d'asile. Et depuis, moi, je suis au centre et ici, depuis le 1er, je suis arrivé ici le 1er à 9h. Le 1er juin à 9h, aujourd'hui, je suis à mon 35e jour ici. Et découvrir ici, c'est ma deuxième fois de venir ici, j'étais là aussi en février, j'ai été arrêté, j'ai été ramené ici. Et là, c'est pour ma deuxième fois d'être ici. Là, je rencontre, il y a l'Afrique, si tu veux, il y a l'Europe, il y a la vraie face de l'État français xénophobe que je retrouve à l'intérieur ici. Il y a un peu le monde que je rencontre ici, il y a l'Inde, il y a l'Amérique, il y a le Brésil. Il y a l'Afrique noire comme l'Afrique berbère, ils sont tous là.
Il y a combien
et c'est quoi, il y a à l'intérieur ici, il y a une infirmerie, il y a une association, soit, il y a le forum des réfugiés, il y a une section de l'OFI qui s'occupe des courses, et le forum s'occupe un peu de tout ce qui est de la juridiction, de préparer... s'il y a des recours à faire ou appels ou mettre en contact des gens avec les avocats.
Il y a combien de personnes actuellement au centre de rétention ?
Actuellement, il y a 66 dossiers parce qu'ils changent tout le temps les affiches et il y a un vrai gâchis de papier à l'intérieur ici. Et il y a une division aussi toujours à l'intérieur qu'ils font. Ils ont mis, si tu veux, l'Afrique et l'Europe de l'Est d'un autre endroit et de tout ce qui est de l'Arabie. D'un autre endroit, et il y a toujours cette division, on vous divise pour mieux régner, elle est là encore à l'intérieur.
Et si on revient plus par rapport à toi, dans ta situation, toi, t'as refusé d'embarquer à bord d'un avion. Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça s'est passé, le choix là que tu as fait de refuser est-ce que tu vas avoir des ennuis judiciaires pour ce refus?
J'ai déjà des ennuis de fait de venir dans ce pays et sans être invité, ça c'est des ennuis, ça, tu vois, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit là, tu sais. Et ils ont mis plein de trucs aux frontières pour ne pas qu'on arrive ici. Et tu vois, c'est comme chanter un reggaeman, c'est qu'ils allument le feu, après ils viennent chez le pompier. Mais c'est qu'on a tout compris. Et là, c'est ça, et la seule chose, quand j'étais dehors, je luttais. Mais si je suis entre leurs mains, c'est que je résiste et c'est... Si j'ai le droit encore de dire non, je ne monte pas et que je refuse, et que je puisse parler aux passagers qui vont monter dans un avion, de ne pas accepter qu'ils expliquent quelqu'un contre son gré, ça je vais continuer à le faire. tu vois, je suis là, je suis arrivé, ben, je suis venu pour faire quelque chose, et ça, je veux le faire, et ils ne pourront pas m'intimider en me disant, simple fait, tu vas rentrer chez toi, et on va te dégager. Non, c'est pas ça, et, ils n'ont pas le droit d'embarquer les gens comme ça. Quand je suis arrivé en France, la première des choses que j'ai fait, c'est demander l'asile, ben, et ça, c'est soit qu'ils ils n'ont pas à y dire que leur procédure d'asile, c'est trop relou, mec, c'est trop relou, et ils n'ont pas à y dire qu'ils vont vérifier les trucs, comment que la distance que la personne a fait de son point de départ à son point d'arrivée suffit sa justification d'asile. Et, voilà, et dire qu'allez, on va vous rapatrier chez vous. Chaque jour, ils le rapatrient. Ouais, ceux qui sont du continent européen, ils vont bien accepter parce qu'ils n'ont pas une mer à traverser pour revenir. Et pour nous, les mecs qui viendront d'Afrique ou d'ailleurs qui viennent des îles, qu'ils sachent que c'est mort. On n'y va pas. Moi, est-ce qu'ils ramènent nos cadavres ou qu'ils expédient comme des cartons? Ça va le faire, mais sinon, ben, ils vont nous relâcher dans l'Europe, quoi. Et leur représailles, ça ne fait pas peur, quoi. On sait que c'est quoi? C'est un système hypocrite, c'est un système faible, quoi, tu vois. On ne saura que tuer les trucs, causer, se poser. Avec les lois, ils n'ont pas ça, quoi.
Et donc, toi, tu as refusé, mais il y a aussi des personnes là qui sont venues empêcher des embarcations. Du coup, dont on parle régulièrement, c'est-à-dire que des personnes encouragent les gens qui montent dans un avion à refuser que l'avion parte avec une personne qui va se faire expulser. Et toi, tu t'es... T'as aussi eu là des procès et qui fait que pour l'instant ils sont pas réussi encore à t'expulser, ce qui est vraiment chouette, cette mobilisation, non?
Ouais, il y a une forte mobilisation, tu vois, et tu vois, y a des camarades, des amis, des militants, tu vois, qui sont là, tu vois, depuis le terrain, qui sont en train aussi de lutter contre ce gros système autoritaire et hypocrite et lâche. Tu vois, il y a un fort soutien. Ouais, c'est comme, je dis tout le temps, bah, soit c'est ici ou ailleurs, il y a un soutien pharaonique dehors, tu vois, qui dit aux gens de tenir bon, parce que il faut un moment qu'on jeûne nos forces tous ensemble pour faire le truc. Soit que tu es venu d'ailleurs, sache que la France, elle est là, mais elle est aussi à l'extérieur. Elle a exploité ici avant d'aller exploiter à l'extérieur. Alors, il y a des résistants ici, il y a des lutteurs ici, et il y a d'autres qui viennent les rejoindre. Et, ben, et quand ils veulent expulser ces lutteurs et ces résistants, ben, il y a un soutien pharaonique qui se lève pour dire, allez, on est avec vous. C'est ça le soutien humain, et ça me donne ça me rend plus confiant, tu vois. Et ça me donne une force que je ne sais pas exprimer, quoi. Et ça m'aide à tenir bon et à dire, ben écoutez, c'est là, tout ce qui va se passer, ça se passera ici, il n'y a pas à aller ailleurs, quoi.
Ben, j'espère qu'il y a, pas mal de personnes sans papier qui t'écoutent, parce que ça fait plaisir là, de t'entendre avec cette détermination, ce qui est aussi, il y a plein de gens qui se sentent vachement plus démunis, donc ça fait vraiment plaisir. Et toi, tu habites à Grenoble et tu as notamment habité au squat Le VO, qui, on en avait parlé, qui a brûlé il y a quelques temps. Tu veux nous raconter un peu cette expérience de ce squat?
Écoute, moi je suis arrivé au VO, si j'ai bonne mémoire, c'était vers mai 2016. Ça m'étonnait de trouver toute un peu l'Afrique noire et un peu l'Afrique du Nord regroupée à l'intérieur là-bas. On me dit, ce sont des demandeurs d'asile, ce sont des déboutés. Et moi, j'ai fait le même parcours qu'eux. Je me suis approché de l'endroit, savoir est-ce qu'il y a une organisation derrière, qu'est-ce qu'ils font. Je suis arrivé là, je me suis posé, j'ai demandé le mec, il faudrait qu'on s'organise et qu'on puisse faire des choses, et qu'on se lève, que les mecs... ça se fait régulariser, quoi. Ce n'est pas la pluie qui va tomber pour qu'on ait une carte de séjour ou quelque chose. Il faut juste que quelqu'un se mette derrière un ordi et qu'il te fait rentrer dans une cage, quoi. Ils veulent nous mettre dans des cages, mais c'est cette cage-là qui nous donne cette carte, tu vois, avec laquelle ils pourront jouer, eux aussi, aller faire les choses très tranquilles. Ah ben, du coup, je suis venu au squat, tu suis resté à brasser, à parler avec les gens, à leur demander à ce qu'on s'organise, on fasse les choses ensemble. Et jusqu'à ce qu'il y ait le feu, je me rappelle plus exactement, c'était avant, c'est après février qu'il y ait le feu au village olympique. Et depuis, bah, les personnes qui étaient là-bas, soit ce sont des députés, comme je disais, et, ou des demandeurs d'asile qui n'ont pas été, à qui on n'a pas proposé des hébergements par la préfecture, on n'a rien proposé. Ils les lâchent comme ça dans la rue, ils les disent deux fois, tu es en procédure de blanc et la personne va rester 6 mois ou plus, ou 18 mois de fois, comme ça, sans être léger par la préfecture. Et ce sont des camarades activistes et pacifistes qui se lèvent pour chercher des bâtiments, parce qu'on sait, il y a des bâtiments plein vides qui ne sont pas habités, qui sont habitables et qui vont fermer, qui refusent que les gens habitent. Et ces gens, ils n'ont plus habité ce lieu comme ça. Bon, et après, il y a eu le feu, et depuis, on continue à chercher des bâtiments, ouais, donc toutes ces personnes qui sont dans les rues, parce que ce n'est pas des bâtiments qui manquent, des bâtiments vides. Et l'événement, ça a été quelque chose de très fort. Moi, j'ai dormi ce jour à l'intérieur, j'étais avec mes chiens, on a pu nous en sortir, on n'a pas brûlé, il y a eu quelques personnes qui étaient vraiment traumatisées, touchées, d'autres ont sauté par les fenêtres, d'autres ont perdu des affaires. Et après, la préfecture, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est de les mettre, les barquer avec le CCAS, c'est de les barquer dans un gymnase. Parce que moi, je ne suis pas rentré dans le gymnase. Je n'ai aucun critère pour monter à bord de leur vaisseau. Et ça, moi, les mecs, ils les ont après dispatchés dans la France. On ne sait pas qu'est-ce qui va devenir leur avenir. Et quand on était mobilisés, quand on était un peu ensemble, on se disait, allez, on pourra s'organiser, faire une force, faire quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, ils sont un peu la France, un peu partout. Et d'autres sont repartis dans la rue. Et après le gymnase, ils ont amené les gens dans des hôtels. Et après ces hôtels, ils les ont mis dans la rue. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Et ce sont ces mêmes camarades qui sont à Grenoble, qui viennent moi me soutenir, qui proposent des hébergements à ces gens. Et c'est quoi? C'est relou, quoi. Et on se lève dans la ville, dire, écoutez, monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le président du métro, vous avez des bâtiments vides. Vous voyez, laissez les gens occuper ces bâtiments, ils ne sont pas là pour faire autre chose, quoi. Il faut les réhabiliter. J'ai trouvé qu'il y a une politique très différente entre l'Espagne, par où je suis passé, et la France. L'Espagne, elle est dans une politique de réhabiliter la personne. Et la France, elle est sur une politique de détruire les personnes. Ça va.
Excuse-moi, en fait, à 20h, on doit laisser l'antenne à notre émission de radio. En tout cas, je te remercie vraiment pour ton témoignage. Et pour nous avoir raconté là donné toutes ces informations. En tout cas, nous à Radio Canu, on a suivi, on va continuer à suivre ces histoires autour des expulsions là suite à la réouverture là pour du VO, du moins d'une autre forme là. Et avec plaisir, on va suivre aussi. La mobilisation qu'il y a autour de toi pour faire en sorte de relayer les informations d'appel à rassemblement avant les procès, etc. Et ben merci beaucoup Barry, et puis on vous laisse très chers auditeurs avec la future émission de radio.
C'est ça.
Ça sache.
Alors merci à Yves Noir de nous avoir laissé 4 minutes et c'est l'heure pour nous de vous dire au revoir et nous vous retrouverons en septembre parce que c'était la dernière de cette saison.
Salut.
Ciao, merci de nous avoir écoutés.
Sois fier de ce que t'es, dis-toi que tu leur dois rien. Sois fier de ce que t'es. Deux, la thune ça va, ça vient. En trois, je suis plus rien si j'oublie de là où je viens. Je m'en rappelle quand je serai grand, je serai heureux tout le temps. Y'aurait plus tes redoubables, t'es pas content, tu fous le camp. Y'aurait plus les yeux baissés de bas ou de main. On aurait plus rien à prouver, on vit légalement. Je m'en rappelle quand je serai grand et que tout serait différent. C'est les mots qui sont cruels, les vieux sont plus cohérents. Je m'en rappelle, je me disais ça, je pourrais les mêmes. On serait plus des étrangers, on vivrait les